VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 11 janvier 2021. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres. Au Nigeria, 13 soldats ont été tués dans l'état de Yobe dans une nouvelle attaque du groupe État islamique. En Ouganda, plusieurs responsables gouvernementaux coupés de Facebook avant la présidentielle de jeudi prochain. Les États-Unis vont ouvrir un consulat au Sahara occidental après avoir reconnu la souveraineté du Maroc sur ses territoires. Ici aux États-Unis, les démocrates veulent déclencher une deuxième procédure de mise en accusation du président Donald Trump quelques jours avant la prestation des serments de Joe Biden. Également dans cette édition du Monde Aujourd'hui, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal. Une fois encore, bonsoir. 13 soldats nigériens, on le disait en titre, ont été tués samedi dans une embuscade tendue par des djihadistes liés à l'État islamique dans l'État de Yobe. C'est dans le nord-est du Nigeria. Eric Manirakiza.
Ces combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, ont ouvert le feu sur un convoi militaire avec des armes lourdes et des lance-roquettes dans le village de Gazagana, à 30 km de Damaturu, la capitale de l'État. Selon un communiqué officiel, l'armée nigériane a déclaré avoir perdu un soldat dans cette embuscade et avoir neutralisé 28 djihadistes. Le convoi était en route vers une base militaire située dans la ville de Bouniadi, à 50 km de Damaturu. La région de Bouniadi est un des bastions de l'ISWAP qui y mène régulièrement des attaques contre des militaires et des voyageurs. Les insurgés se déplacent sur l'axe reliant Bouniadi et un camp situé dans une forêt de l'État voisin du Borno. Des affrontements se produisent régulièrement entre les islamistes armés et les troupes sur cet axe.
La Fédération internationale pour les droits humains et l'Association malienne des droits de l'homme ont demandé lundi une enquête indépendante sur l'éventualité d'une bavure militaire française dans le centre du Mali. Des villageois et une association de défense de l'ethnie Peul affirment qu'une frappe aérienne menée par hélicoptère a tué une vingtaine de civils lors d'un mariage dans le village de Bounti le 3 janvier. Les autorités françaises et maliennes martèlent que les avions français ont visé et éliminé des dizaines de djihadistes. L'ex-chef de file de l'opposition et troisième de la présidentielle de novembre au Burkina Faso, Zéphirin Diabré, a été nommé ministre de la Réconciliation nationale. Chef de file de l'opposition depuis 2012, Monsieur Diabré est arrivé en troisième position de la présidentielle de novembre. Réélu dès le premier tour avec 57,74%, le président Roch Marc Christian Kaboré avait promis de travailler à la réconciliation nationale. En Côte d'Ivoire, l'ancien ministre Abdallah Mabri Touakeuse, une des figures de l'opposition poursuivie pour complot contre l'autorité de l'État, est réapparu en public dimanche à la sortie d'une visite rendue à l'ex-président Henri Konan Bédier, leader du PDCI. Cela faisait au moins 2 mois que Mabri Touakeuse, ancien ministre qui a rejoint l'opposition avant la présidentielle d'octobre et chef d'un petit parti, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, avait disparu. Certains le disaient alors en fuite au Ghana voisin. Facebook a fermé ces derniers jours les comptes de plusieurs responsables gouvernementaux ougandais accusés d'interférence dans le débat public à l'approche de la présidentielle de jeudi opposant le président sortant Yoweri Museveni au député Bobi Wine. Nathalie Barge.
Facebook a annoncé avoir fermé un réseau de comptes en Ouganda impliqué dans un comportement inauthentique coordonné visant à influer sur l'élection, a indiqué le géant américain. Ils utilisaient de faux comptes ou des comptes dupliqués, se faisaient passer pour des utilisateurs et partageaient des contenus dans des groupes pour les faire apparaître plus populaires qu'ils n'étaient, a précisé la responsable de la communication de Facebook pour l'Afrique subsaharienne, Kezia Animado. Après enquête, Facebook dit avoir découvert que ce réseau était lié au groupe d'interaction des citoyens avec le gouvernement du ministère de l'Information en Ouganda. Le conseiller en communication du président, Don Wanyama, qui fait partie des personnalités dont les comptes ont été fermés, a accusé à son tour Facebook de vouloir influer sur le cours de la présidentielle. L'équipe de campagne de Yoweri Museveni a régulièrement accusé l'extérieur de soutenir Bobi Wine pour parvenir à un changement de régime.
Le parquet guinéen a réclamé lundi un an de prison ferme contre Oumar Sylla, alias Fonike Mangé, une figure de l'opposition au troisième mandat du président Alpha Condé. Oumar Sylla a été jugé pour trouble à l'ordre public par un tribunal de la banlieue de Conakry, alors que, selon Amnesty International et Human Rights Watch, avant et après la présidentielle du 18 octobre, de centaines de personnes ont été arrêtées. Le jugement a été mis en délibéré au 14 janvier. Le Soudan a annoncé dimanche ne pas pouvoir poursuivre les négociations illimitées avec l'Égypte et l'Éthiopie au sujet du barrage construit sur le Nil par Addis Abeba après l'échec des derniers pourparlers. La semaine dernière, les trois pays s'étaient mis d'accord pour tenir de nouvelles discussions sur la gestion et le remplissage du réservoir du grand barrage de la Renaissance. Le projet lancé en 2011 est destiné à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. Les États-Unis ont officiellement lancé le processus d'ouverture d'un consulat américain au Sahara occidental, quelques semaines après avoir reconnu la souveraineté du Maroc sur ses territoires. Abdourahman Dia.
Le secrétaire d'État adjoint pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, David Schenker, a affirmé au cours d'un point de presse que c'est un jour historique. Il a rappelé qu'il y a un mois, le président Donald Trump annonçait à la fois la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental et que le Maroc et Israël allaient améliorer leurs relations diplomatiques. Mais le processus prendra des mois, a reconnu dimanche l'ambassadeur américain David Fisher après avoir visité un des bâtiments proposés pour abriter le consulat à Dakhla, destiné à devenir un hub maritime régional grâce à un projet d'investissement colossal piloté par Rabat. De son côté, un responsable de la République arabe sahraoui démocratique, Bachir Mustafa Sayed, s'est efforcé de minimiser la portée de la visite de la délégation américaine au Sahara occidental, la qualifiant de tournée touristique de propagande. Les Nations Unies considèrent le Sahara occidental comme un territoire autonome dans l'attente d'un statut définitif. Rabat, qui contrôle environ les deux tiers de ce territoire, veut une autonomie sous contrôle. Le Polisario, soutenu par l'Algérie voisine, milite pour l'indépendance et réclame un référendum d'autodétermination prévu par l'ONU.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les élus démocrates du Congrès américain ont présenté ce lundi l'acte d'accusation contre le président Donald Trump dans le cadre d'une procédure des destitutions. Ils ont aussi déposé une résolution demandant au vice-président Mike Pence de démettre le président Trump après les événements du Capitole mercredi dernier qui ont fait 5 morts et ébranlé les États-Unis. Jacques Aristide.
Les parlementaires démocrates passent à l'action dans le but d'obtenir le départ de Donald Trump de la Maison-Blanche à 9 jours de la fin de son mandat. Dès l'ouverture de la séance, 2 actions ont été introduites à la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates. D'une part, le chef de la majorité, Steny Hoyer, a tenté de faire adopter à l'unanimité une résolution demandant au vice-président Mike Pence de démettre Donald Trump de ses fonctions en invoquant le 25e amendement de la Constitution. Un républicain s'est opposé à son adoption immédiate à l'unanimité. Un vote en séance plénière devrait avoir lieu dès demain. En parallèle, les démocrates ont formellement présenté à la Chambre un article de mise en accusation contre le président républicain qui marque le premier acte vers l'ouverture formelle attendue cette semaine d'une deuxième procédure de destitution contre le président américain qu'ils accusent d'avoir incité à la violence qui a frappé le Capitole. Donald Trump a condamné ces troubles en les qualifiant d'attaques odieuses et a appelé à la réconciliation tout en promettant avant une transition sans accroc.
Les rebelles houthis au Yémen ont condamné lundi leur désignation comme groupe terroriste et ont dit se réserver le droit d'y riposter. Selon eux, la politique et les actions de l'administration Trump sont du terrorisme aussi. Ces politiques reflètent une pensée en crise et sont condamnables et nous avons le droit d'y riposter, a déclaré sur Twitter un haut responsable des rebelles, Mohamed Ali al-Houthi. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé lundi être candidat à un second mandat à la tête de l'organisation. À 71 ans, l'ancien premier ministre portugais a affirmé à la présidence de l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité qu'il était disponible pour un second mandat comme secrétaire général des Nations Unies, si telle est la volonté de leurs États membres, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Claire Morin-Gibourg.
La Banque africaine de développement s'est engagée ce lundi à mobiliser 6,5 milliards de dollars sur 5 ans pour faire progresser l'initiative de la Grande Muraille Verte dans le Sahel. Ces fonds doivent permettre la mise en œuvre d'une série de programmes, notamment du CEFA, le Fonds des énergies durables pour l'Afrique, le Fonds vert pour le climat et le Fonds pour l'environnement mondial. Le plan de la Grande Muraille Verte consiste à planter une mosaïque d'arbres, de prairies, de végétation sur 8000 km de long et 15 km de large à travers le Sahara et le Sahel pour restaurer les terres dégradées et aider à la production agricole. Le Sénégal va procéder au paiement de la marge semestrielle et au remboursement partiel de son emprunt obligataire islamique, le Soukouk État du Sénégal 6% 2016-2026 pour un montant de plus de 14 milliards de francs CFA à la fin janvier 2021. Ce Soukouk a été lancé en juin 2016 pour un montant de 150 milliards de francs CFA. Les taux d'intérêt classiques étant interdits par la loi islamique, l'émetteur avait fixé une marge de profit de 6% à verser aux souscripteurs.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. 33 joueurs représenteront le Mali à la phase finale du championnat d'Afrique des Nations. Chan qui débute le 16 janvier au Cameroun. Le sélectionneur des aigles locaux, Noum Diané, a présenté sa liste à la presse en présence de notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré.
Le Mali partage la poule avec le pays organisateur, c'est-à-dire le Cameroun. Il y a le Burkina Faso, un voisin du Mali, un autre défi. Et enfin, le Zimbabwe, cet autre pays, a indiqué le sélectionneur du Mali, qui a beaucoup de joueurs de l'équipe nationale A dans son effectif. Pour Noum Diané, malgré tout, une compétition de football réserve toujours des surprises.
Le Mali a énormément progressé et à un autre niveau. On ne va pas aller en se disant que non, c'est le Cameroun ou ceci, cela. Le Mali aussi existe. Nous avons des joueurs qui ont prouvé qu'on mérite d'être là. On n'est pas là par hasard.
La confiance placée aux 33 aigles locaux ne souffre l'ombre d'aucun doute, nous a indiqué le sélectionneur Noum Diané.
Moi, je pense sincèrement que nous avons un groupe qui est capable de faire quelque chose au Cameroun. Ceux qui ont joué les éliminatoires pratiquement sont tous là, peut-être à part 2 à 3 joueurs. Pour moi, c'est jouable. Il faut le prouver sur le terrain.
Pour cette phase finale du CHAN au Cameroun, Noum Diané avait ses critères de sélection des joueurs.
Est-ce que tu peux te permettre d'aller avec des joueurs qui n'ont jamais joué une compétition africaine, qui n'ont jamais joué le championnat national du Mali? Critère pour moi, c'est d'abord, il faut que les joueurs aient un vécu, qu'ils aient de l'expérience.
En attendant, leur premier match de poule prévu pour le 16 janvier prochain contre le Burkina Faso, les aigles locaux s'envoleront ce mercredi pour le Cameroun dans un bon état d'esprit, nous indique leur sélectionneur Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Et puis, cette triste nouvelle survenue hier à Montfermeil, en région parisienne, l'international congolais Christopher Maboulou est mort à 30 ans suite à un arrêt cardiaque pendant qu'il jouait un match avec ses copains. Le milieu offensif était libre depuis son départ du Thonon Evian Grande, Genève, en National 3 l'été dernier. Il a disputé 29 matchs de Ligue 1 et 52 en Ligue 2. Ici, en NBA, Kawhi Leonard a été déterminant dans le succès des Clippers sur Chicago, 130 à 127. Terminator, comme on l'appelle, a inscrit 35 points pour dépasser la barre des 10 000 points. Depuis le début de sa carrière, porté par Anthony Davis, les Los Angeles Lakers se sont imposés à Houston 120 à 102. Pour ses retrouvailles avec le Thunder, où il a joué 8 saisons, Kevin Durant n'a pu empêcher la défaite des Brooklyn Nets sur leur parquet, 129 à 116. Toujours à New York, les Knicks ont concédé leur deuxième défaite consécutive contre Denver, 114 à 89. Le remake des finales 2019 a tourné à l'avantage de Golden State aux dépens de Toronto, battu 106 à 105. L'ailier camerounais Pascal Siakam, auteur d'une solide performance, 25 points et 11 rebonds, a vu sa tentative au buzzer échouer d'un rien. Frustrant pour les Raptors, battu pour la 7e fois en 9 rencontres. À Détroit, le Jazz a contenu les Pistons 96 à 86.
Merci, Yacouba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Linden, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Et on commence par le Cameroun. Le Cameroun, où les autorités affirment que plus de 250 travailleurs étrangers, pour la plupart chinois, ont fui les violences post-électorales en République centrafricaine vers la ville frontalière de Garoua-Boulaye. Ces travailleurs étrangers se disent visés par des groupes rebelles mécontents des résultats de la présidentielle du 27 décembre. C'est un reportage de Moki Edwin Kinzeka à Garoua-Boulaye au Cameroun. Le récit est de Claire Morin-Gibourg.
Li Yu, 43 ans, se présente comme porte-parole des travailleurs chinois qui ont fui les violences en République centrafricaine. Selon lui, 152 commerçants chinois, ingénieurs en construction ou travaillant sur des sites miniers ont fui vers le Cameroun la semaine dernière.
Les groupes rebelles armés ont commencé à menacer les travailleurs chinois dans les mines après les élections du 27 décembre. La situation s'est aggravée la première semaine de janvier. Des groupes d'hommes lourdement armés ont commencé à fouiller nos maisons, à piller et à demander à tous les citoyens chinois de partir ou d'être tués. Ils se disent heureux d'être accueillis par le Cameroun.
Selon lui, plus de 60 Chinois travaillaient sur des sites miniers en République centrafricaine et certains ont traversé la brousse pendant des jours pour arriver au Cameroun. D'autres travailleurs chinois et étrangers ont été aidés à la frontière par l'armée centrafricaine. Le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atanganji, a rendu visite dimanche à ces travailleurs étrangers à Garoua-Boulaye.
Le président de la République a demandé qu'on vous accorde l'encadrement nécessaire pendant ces moments difficiles. Pour ceux qui veulent se déplacer pour aller à Yaoundé, ils auront des facilités pour pouvoir se rendre à Yaoundé sans difficulté. Pour ceux qui ont des problèmes de papier également, le chef de l'État donne des instructions qu'on facilite les mouvements de tous ces compatriotes chinois qui ont des difficultés du fait des problèmes dans le pays voisin. Donc vous comprenez que le chef de l'État soit particulièrement concerné par la situation des ressortissants chinois en difficulté à Garoua-Boulaye.
La mission des Nations Unies en Centrafrique, la MINUSCA, a fait savoir dimanche que la violence augmentait de manière alarmante. Selon elle, 4000 civils ont fui les violents combats dans les villes de Bouar et Grimari et certains se sont réfugiés à l'église de Bouar. Le chef d'état-major camerounais, le général René-Claude Meka, s'est rendu la semaine dernière à Garoua-Boulaye. Il a déclaré, citant les services de renseignement camerounais, que les rebelles centrafricains se dirigeaient vers la frontière.
Nous sommes venus ici pour nous rassurer auprès de responsables militaires sur place de l'efficacité de mesures qui ont été prises pour éviter que notre pays soit débordé par tous ces désordres. Les mesures sont bien appliquées, mais il faut toujours s'assurer qu'on a fait tout ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de problème.
La violence a éclaté en Centrafrique avant l'élection présidentielle du 27 décembre. Le président sortant, Faustin Archange Touadéra, a été annoncé vainqueur avec plus de 53% des voix. Les autorités de Bangui accusent l'ancien président François Bozizé, dont la candidature a été rejetée, d'avoir tenté un coup d'État. Monsieur Bozizé nie avoir organisé ces attaques. La coalition soutenant Bozizé avait exigé le report des élections prison en raison de la violence, mais le gouvernement a procédé au scrutin. La violence depuis 2013 a déplacé près de 700 000 personnes à l'intérieur de la République centrafricaine et contraint plus de 60 000 autres à fuir, pour la plupart vers le Cameroun, le Tchad et la République démocratique du Congo.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Les réseaux de trafic des eaux et forêts font perdre près de 200 milliards de francs CFA par an à l'État gabonais dans le trafic du bois. L'industrialisation de la filière a désormais du plomb dans l'aile avec des prévisions économiques incertaines en termes de création d'emplois et des retombées sociales au sein des communautés villageoises. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obianzé.
Depuis 2014, la loi gabonaise prévoit que les sociétés versent de l'argent aux comités de villageois pour soutenir des projets dans les localités où elles opèrent. Cette exigence gouvernementale est encore loin d'être respectée en 2021. Nikèze Biban habite un petit village situé à 200 km de Libreville.
Lorsqu'une société va dans un village, il y a un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, nous avons demandé la construction d'une école et d'un centre de santé. Mais jusque-là, la société n'a pas encore réagi.
Cette société qui traîne les pieds pour aider la communauté villageoise est chinoise. Face aux critiques contre ses lenteurs, l'un des responsables pointe les contraintes internes et externes. Anatole Moussavou, chef du département de l'opérateur chinois, mis en cause par les villageois.
Nous sommes encore en pleine installation. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière pour pouvoir produire et ristourner suffisamment au bénéfice des villageois.
Malgré l'existence d'une loi qui encadre les aides aux villageois et la protection des bois précieux, les pratiques de corruption n'ont pas disparu pour autant dans le milieu. C'est ce que dénonce Marc Onaï Sangui de l'ONG internationale de lutte contre la corruption Tournons la page.
Un système de corruption bien huilé, bien établi et bien enraciné au sein du ministère que nous dénonçons et qui fait déjà des victimes, mais pas des victimes importantes. Tout simplement, ce sont des alevins qu'on attrape au lieu d'attraper des gros poissons.
Selon les organisations de la société civile, ces malversations autour du bois accroissent le risque de corruption dans les rangs d'autres administrations concernées par le processus d'empotage, de dépotage et d'exportation. Nikèze Moulombi, président de l'ONG Croissance Saine Environnement, estime qu'il est temps que l'exécutif se saisisse de ce dossier à scandale qui écorne l'image d'un pays signataire des conventions internationales en matière de protection des forêts.
Pour arrêter cette corruption à ciel ouvert, au niveau de l'exploitation forestière au Gabon, nous demandons au chef de l'État la convocation d'un conseil présidentiel sur la gouvernance forestière et environnementale élargie aux acteurs étatiques.
Les insuffisances autour des politiques sectorielles et la mise en œuvre de leur planification au niveau national indignent la plateforme des acteurs de la société civile. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
Après Twitter, Facebook a suspendu le compte du président américain Donald Trump. Snapchat et Twitch ont également supprimé son profil. Facebook et Instagram ont suspendu son compte après l'assaut du Parlement à Washington par ses partisans et ont ensuite prolongé cette mesure jusqu'au 20 janvier lorsque son successeur démocrate Joe Biden prendra ses fonctions à la Maison-Blanche. Nathalie Barge a joint sur la question le directeur Afrique d'Internet sans frontières, Abdel Kerim Yacoub Koumdougoumi.
Ces responsables des plateformes ont décidé de prendre des décisions. Ils ont mis des principes, des régulations. Donc ces principes-là ne s'appliquent pas seulement aux usagers lambda. Donc que tu sois le président des États-Unis ou que tu sois quelqu'un, un agriculteur ou fond du village de l'Afrique, tu es un utilisateur. Donc, ça veut dire que le respect des règles d'utilisation de ces plateformes-là s'applique à tout le monde. Pour combattre le discours de haine, pour combattre les fake news, pour combattre tous ces qui permettent aujourd'hui de causer des violences, doit être combattu. Et je crois que Facebook a agi normalement. Et cela montre maintenant à tout le monde que chacun doit respecter la limite de sa responsabilité.
Vous avez parlé de haine. Toutefois, il faut quand même préciser que Donald Trump n'a jamais directement appelé à la haine ni à la violence dans ses tweets. Hein. Est-ce que les médias sociaux n'auraient pas tendance à se politiser quelque part? Parce que Donald Trump n'est pas le seul cas.
Oui, c'est que les gens pensent en premier lieu. Hein. Les gens ils ont dit aussi que voilà, les réseaux sociaux commencent à décider de ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Les réseaux sociaux commencent à prendre le pouvoir. Les réseaux sociaux, non. Il faut réguler. Donald Trump, ces mots, imaginez, il a sur son compte Twitter presque 88 millions de personnes. Donc, si Donald Trump dit des choses et que les gens l'interprètent de façon autre, c'est-à-dire il est responsable de ces mots. Ce qui s'est passé au Capitole, ce n'est pas venu comme ça de nulle part. Donc lui, en tant que responsable politique, sa parole a un impact énorme. Donc, c'est une façon de dire aussi que les hommes politiques dont les mots qu'ils prononcent en une parole doivent faire très attention et évaluer, apaiser leurs mots pour éviter justement toute conséquence de leurs paroles ou de leurs discours.
On parle ici de politique, n'est-ce pas? Est-ce que cela veut dire qu'il faudrait censurer tous les politiques, tous les politiciens qui font des appels à la manifestation?
Non. C'est pas un appel à la manifestation uniquement. Tout le monde fait des appels à la manifestation. Nous aussi, on fait des appels à la manifestation. La question, c'est de voir... il faut contextualiser, en fait. Il faut poser toujours le contexte. Dans quel contexte les gens réagissent? Dans quel contexte les réseaux sociaux essayent de modérer pour éviter des problèmes? Donc, le contexte de ce qui s'est passé avec Donald Trump au Capitole, c'est s'ils ont essayé d'atténuer ou même de faire que la tension baisse, c'est aussi le rôle de ces réseaux sociaux-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un pouvoir incontournable et que maintenant, il faut compter avec. Et maintenant, peut-être que ce précédent permet de réfléchir ensemble, de pouvoir poser des bases pour le futur.
Abdelkerim Yacoub Koumdougoumi, directeur Afrique d'Internet sans frontières. Et c'est la fin de ce journal. À la mise à nom de Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin. À la présentation, John Lydon, édition en chef Idriss Ball. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le Parti communiste chinois, ou PCC, a imposé des restrictions draconiennes aux libertés d'expression, de religion ou de croyance, d'association et des droits de réunion pacifique en Chine. Les États-Unis, a déclaré le secrétaire d'État Mike Pompeo, ont clairement indiqué que les auteurs de violations des droits de l'homme comme celle-ci ne sont pas les bienvenus dans notre pays. À cette fin, les États-Unis ont imposé des restrictions supplémentaires en vertu de la loi sur l'immigration et la nationalité et sur la délivrance de visas pour les fonctionnaires chinois soupçonnés d'être responsables ou complices de politiques ou d'actions visant à réprimer les pratiquants religieux et spirituels, les membres de minorités ethniques, les dissidents, les défenseurs de droits de l'homme, les journalistes, les syndicalistes, les organisateurs de la société civile et les manifestants pacifiques. Les membres de la famille de ces personnes peuvent également être soumis à ces restrictions. Les nouvelles restrictions s'appliquent à tous les fonctionnaires chinois engagés dans des politiques ou des actions répressives contre ces groupes, quel que soit leur emplacement. Cette année, les États-Unis ont imposé des restrictions de visa et des sanctions financières à des leaders du PCC, responsable des horribles actions commises au Xinjiang, imposant des restrictions à l'accès des diplomates américains au Tibet et contribuant à l'abandon de l'autonomie promise à Hong Kong en vertu de la déclaration conjointe sino-britannique. Ces actions démontrent la détermination du gouvernement américain à tenir le PCC responsable de sa répression croissante contre le peuple chinois. Les États-Unis se tiennent aux côtés des nombreuses personnes persécutées par le PCC pour avoir tenté d'exercer leurs droits fondamentaux. Il s'agit notamment de l'avocat Su Jiyang, du pasteur Wang Yi, du militant de la société civile Wang Qi, de l'universitaire ouïghour Ilham Tohti, du défenseur de la démocratie hongkongais Jimmy Lai et du linguiste et homme d'affaires tibétain Tashi Wanchok, entre autres. Le secrétaire Pompeo a appelé à leur libération immédiate et a demandé aux autorités du PCC de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales auxquelles le peuple chinois a droit en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.